Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Les AirTags, c'est un des produits les plus abordables du catalogue d'Apple, mais il est toujours possible de trouver un équivalent encore moins cher, avec pratiquement toutes les fonctions du tracker. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Anthony et une de ses obsessions, écrire sur iPad. Vous allez me dire, il suffit d'utiliser le clavier virtuel, mais ici il s'agit d'écriture manuscrite. Vous allez voir, ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons. Nous sommes le lundi 27 février, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Pourquoi acheter un AirTag à 39€ quand on peut avoir quasiment la même chose en chinoisium pour 8€ seulement ? Pierre est tombé sur l'iTag, un tracker d'objets qui utilise le même réseau localisé d'Apple que les AirTags. Le petit bidule est bel et bien certifié par Apple et tout fonctionne normalement. Après la configuration dans l'application localisée, l'iTag signale correctement sa présence. Par contre, il n'y a pas la fonction de localisation précise avec cette grosse flèche sur l'iPhone. Mais c'est vrai que pour le prix demandé, c'est difficile de faire la fine bouche, surtout qu'il est possible de changer assez facilement la pile. Le seul problème de l'iTag finalement, c'est qu'il est compliqué de l'acheter. Il n'est pas vraiment distribué en France, on peut tenter sa chance en fouillant dans le catalogue d'AliExpress. Mais ça peut être un bon plan pour économiser sur des AirTags. Contrairement à une idée reçue qu'Apple avait même transformée en argument commercial, les Mac aussi peuvent être touchés par des virus et par des malwares. Jamf en a repéré un assez vicieux qui installe en scred un mineur de crypto-monnaie en passant par une version pirate de Final Cut Pro. Alors on va rassurer tout de suite les plus anxieux, Apple a réglé le problème en mettant à jour X-Protect, qui est le mécanisme anti-malware de macOS. Ce mineur de crypto très indélicat a connu plusieurs générations qui ont permis aux malandrins d'affiner le processus d'installation. La première génération demandait à l'utilisateur de saisir le mot de passe administrateur du Mac, ce qui pouvait susciter une suspicion assez légitime de la part de l'utilisateur. La dernière génération ne s'embarrasse plus de ça, maintenant le malware s'installe tout seul et il peut même s'arrêter de fonctionner quand l'utilisateur lance le logiciel moniteur d'activité. Impossible donc pour lui de confirmer s'il a un problème avec son Mac. Pour éviter ce genre de soucis, on ne peut que vous conseiller de passer par les boutiques officielles, même si évidemment Final Cut n'est pas donné. Apple en propose une version démo 90 jours sur son site web si ça vous dit. L'intelligence artificielle est déjà présente un peu partout dans notre quotidien, mais ça va s'amplifier encore plus avec les chatbots de Microsoft et de Google. Ils se tirent une bourre pas possible pour répondre à vos questions même les plus bizarres. Mais tout ça, eh bien ça coûte cher en infrastructure. Si les technologies pour les moteurs de recherche traditionnels sont bien amorties, le coût d'une requête à un bot comme Bing ou ChatGPT est bien plus élevé. Les éditeurs de ces moteurs de recherche vont donc devoir investir lourdement, et notamment dans des cartes graphiques. Oui, ça peut paraître étonnant, mais les GPU sont très bien adaptés pour ce genre d'utilisation. Pour entraîner ChatGPT, OpenAI a utilisé la puissance de 10 000 cartes graphiques A100 de Nvidia. Si Google devait faire la même chose pour Bard, qui est son propre bot, il lui faudrait 4 millions de ces cartes qui sont vendues 20 000 $ pièce, soit quelque chose comme 80 milliards de dollars. Bien sûr, c'est beaucoup trop et il faut ajouter les frais d'électricité par là-dessus. Google envisagerait donc un déploiement d'une version plus économe de l'intelligence artificielle pour son bot. Et puis, il faut bien voir que si l'investissement initial s'annonce élevé, il sera rentabilisé dans le temps. En attendant, on peut faire confiance à Google et à Microsoft pour inonder les résultats de leur bot avec de la publicité. Un petit message de service pour clore le Flash Info, il n'y aura pas de sortie de veille demain mardi. On fait une petite pause mais pas de panique, votre podcast quotidien reviendra dès mercredi matin. Merci pour votre fidélité et tout de suite la suite de l'émission. Écrire sur iPad, et oui, pourquoi pas, vu qu'après tout, l'iPad est un ordinateur comme un autre, finalement. Mais évidemment, il n'est pas question de se contenter de tapoter sur l'écran virtuel d'iPadOS, et on ne parle pas non plus des claviers physiques, mais bien d'utiliser ces grosses paluches avec un stylet et tout ça. L'art délicat et millénaire de l'écriture manuscrite peut-elle se retranscrire sur iPad ? Anthony va nous dire tout ça, et bien plus encore. Salut Anthony !
Salut Mickaël, salut à tous.
Alors à Noël, tu as régalé les abonnés du club avec une série d'articles sur l'écriture manuscrite pour iPad et plus précisément sur les stylets et les applications qui sont disponibles pour les tablettes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que l'iPad peut faire un bon bloc-notes ?
Alors, je fais partie de cette engeance un peu bizarre qui achète encore des stylos plumes et des flacons d'encre.
Oui.
J'ai même encore un agenda papier.
Oh mon Dieu.
Et même parfois, j'écris des lettres sur du papier. Et pourtant, je prends tout un tas de notes sur iPad. Le format de l'iPad mini, notamment, un peu comme un carnet A5, c'est assez sympa pour prendre des notes debout ou sur le coin de la table. L'iPad Air et l'iPad Pro, au contraire, là, t'as un peu plus d'espace. Je m'en sers beaucoup pour corriger les mémoires de mes étudiants, pour noter des articles scientifiques. T'es au fond de ton canapé, t'as pas besoin d'imprimer des tonnes de papier. Et puis, c'est bête à dire, mais enfin, sur l'iPad, il y a le web. Sur l'iPad, il y a un appareil photo. C'est quand même pratique de temps en temps de pouvoir ajouter ça à tes notes. Donc, ouais, c'est quand même un chouette carnet de notes.
On se rappelle de la déclaration de Steve Jobs qui disait en 2007 que personne ne voulait de stylet et que le meilleur moyen d'utiliser un écran tactile, bah, c'était avec le doigt. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Évidemment, les choses ont bien changé depuis et l'Apple Pencil permet de faire beaucoup plus qu'un bête stylet, et notamment d'écrire sur l'iPad donc, mais est-ce qu'il faut réellement investir dans un Pencil ou est-ce qu'un modèle à 3 francs 6 sous c'est suffisant?
Alors le choix du stylet dépend en partie du choix de l'iPad. Si vous avez un iPad à port USB-C, et je mets de côté le cas particulier de l'iPad 10 pour le moment. Franchement, on peut pas faire mieux que le Pencil 2. Il prend en charge la sensibilité à la pression et la sensibilité à l'inclinaison. Il y a la petite fonction de double tap là pour changer rapidement d'outil. Et sur les nouveaux iPad Pro de 6e génération, il y a même la fonction de survol. Puis évidemment, il se recharge par induction sur la tranche de la tablette. C'est quand même plus simple. C'est la Rolls du stylet. Ça se voit aussi dans le prix, 149€. Mais je crois pas qu'on puisse faire mieux pour ces iPads-là. Si par contre, vous avez un iPad à port Lightning ou un iPad 10, là, ça se discute. Parce que le Pencil de première génération, effectivement, c'est un chouette stylet. Mais enfin, la recharge en branchant son sur port Lightning, ça a toujours été maladroit. Oui. Puis dans le cas de l'iPad 10, où il faut utiliser un adaptateur Lightning vers USB-C et un câble USB-C, c'est carrément ridicule. Le Logitech Crayon, qui est quasiment deux fois moins cher, qui est très agréable en main, je trouve, et qui est beaucoup, beaucoup plus facile à recharger. Il suffit d'utiliser le même câble que celui que vous utilisez pour l'iPad. Se défend franchement. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas sensible à la pression, donc pour le dessin, c'est rédhibitoire. Par contre, pour l'écriture, franchement, ça passe.
Est-ce que l'Apple Pencil, en tant que tel, est agréable pour écrire et, je veux dire, pas juste griffonner des notes sur un coin de l'iPad?
Il porte bien son nom, c'est un crayon, ça a les dimensions d'un crayon, et c'est rapidement inconfortable. Je recommande beaucoup, beaucoup d'acheter un manchon ou une seconde peau en silicone, ça augmente un peu l'épaisseur du stylet, et ça évite d'avoir trop mal aux mains, d'avoir la main qui crispe quand on écrit très longtemps. Et c'est bête à dire, mais un porte-stylet, un truc sur lequel on puisse poser le stylet rapidement sans devoir toujours essayer de chercher où il est, qui roule sur le bureau. Et sur le mien, j'ai juste un wrap autocollant, ça le fait ressembler à un crayon Staedtler, c'est amusant, et en plus, ça évite qu'il glisse. Donc il y a comme ça, voilà, wrap, manchon, seconde peau, qui sont des trucs qui augmentent un peu l'épaisseur et donc facilitent la prise en main. Faut pas hésiter aussi à accessoiriser l'iPad lui-même, je recommande chaudement le film Paper-like, au lieu de glisser sur du verre, ça procure presque la sensation du papier, c'est un gros presque. Et puis évidemment, on pourrait parler pendant des heures de housse, de support, de gants. Allez voir mon article, c'est plus simple. Mais enfin, attention, c'est un coup à doubler le prix de l'iPad.
Alors, tant qu'on est à parler des accessoires, Apple fournit des pointes de rechange avec le Pencil. Mais est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires?
Je ne m'étais jamais trop posé la question. Puis il y a quelques temps, je travaillais sur un dossier où j'ai interviewé pas mal d'artistes qui travaillent sur l'iPad. Et certains me disaient qu'ils passaient jusqu'à 4 pointes par an. Ce que je trouvais assez étrange. Et en fait, faut vraiment pas attendre d'avoir usé le plastique jusqu'à ce qu'on voit la bille métallique qui est à l'intérieur de la pointe. Vraiment, dès que le plastique s'émousse, ça vaut le coup de changer. Ça fait vraiment la différence en matière de confort, en matière de précision. J'ai aussi testé pour ce dossier des pointes de remplacement métalliques qui sont étrangement populaires. C'est notamment nos développeurs qui jouent que par ça. Okay. Et autant c'est très étrange sur l'écran nu, sur le verre, c'est presque inutilisable. Autant quand on utilise un film paper-like, là on a vraiment l'impression d'utiliser un stylo sur du papier, vu le prix qui est assez ridicule. Je crois que c'est 10 balles pour 3 pointes. Ça vaut le coup de tester.
Ouais. Apple a plutôt bien fait les choses puisqu'on peut écrire à la main à peu près n'importe où dans iPadOS.
Ouais, et le problème, c'est que c'est difficile de découvrir toutes ces fonctions. Si vous devez lire qu'un seul article dans cette série, c'est celui-là, c'est celui qui est consacré à ce sujet. Vous verrez, hein, vous apprendrez que le système propose deux gommes différentes, qu'il y a une règle virtuelle, comment remplir les champs de texte avec le pencil, et puis toutes les subtilités de la reconnaissance d'écriture. Comment configurer ces espèces de coins actifs aussi, où on peut déclencher des fonctions en passant le stylet sur le coin de l'écran. Je vais pas vous le refaire, mais vraiment, le stylet, c'est un mode d'interaction qui maintenant est aussi important que le doigt ou que le pointeur. Si vous refusez d'utiliser le stylet en restant sur la phrase de Jobs, eh ben vous savez quoi, c'est vous qui foirez tout.
Alors sur l'iPad, c'est l'application Notes qui est utilisée assez naturellement pour rédiger du texte, mais il y a tout un univers d'applications qui permettent d'écrire sur la tablette. Pourquoi est-ce que je voudrais changer de crèmerie finalement ?
Pour la reconnaissance d'écriture, c'est pas que celle de Notes est mauvaise, c'est juste qu'elle est pas aussi bonne que d'autres, et notamment que celle de l'entreprise française MyScript, dont j'ai interviewé un responsable pour cette série. MyScript, c'est une boîte qui édite aussi sa propre application, Nebo. C'est un chouette carnet de notes, notamment il permet de manipuler l'écriture manuscrite exactement comme si on manipulait du texte qu'on avait tapé. Ça donne vraiment l'impression d'utiliser du papier magique, j'aime beaucoup. Mais MyScript, c'est une vieille boîte qui existait avant l'iPad et qui vend sa technologie, qui licencie sa technologie à d'autres entreprises. Et le moteur de reconnaissance de l'écriture manuscrite de Nebo, on le retrouve dans GoodNotes, on le retrouve dans Notability. Et Nebo, GoodNotes, Notability, pour moi, c'est vraiment le tiercé des toutes meilleures applications de prise de notes. C'est-à-dire, il y en a énormément d'autres. Pareil, dans cette série, je crois que j'en recommande 6 ou 7 supplémentaires. Mm-hmm. Si vous avez jamais eu la curiosité d'aller fouiller dans l'App Store, allez-y, faites-le. Ouais. On trouve des apps très différentes qui ont chacun un avis complètement différent et parfois très bizarre sur qu'est-ce que c'est qu'une note. Peut-être ça vous conviendra, peut-être ça vous conviendra pas, mais c'est toujours mieux que de se contenter de notes qui est quand même relativement limitée dans ses capacités.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon que vous retrouverez plus en détail dans la série que tu as consacrée sur le sujet et qui est proposée à tous les abonnés du club. Salut Anthony.
Salut Mickaël.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.